Merci d'écouter Radio France Internationale, 18h30 en temps universel, 19h30 ici à Paris, 20h30 à Khartoum.
Afrique Soir.
Et c'est l'heure de la première édition d'Afrique Soir. Toute l'actualité sur le continent pendant 30 minutes. C'est avec vous, Alexis Guilleux. Bonsoir Alexis.
Bonsoir Romain Zoui, bonsoir à toutes et à tous. Cela fait maintenant 7 mois qu'Alpha Cher est assiégé par les forces de soutien rapide au Soudan, symbole de ce conflit qui déchire le pays depuis plus d'un an et demi. La population a massivement fui la ville vers le camp de déplacés de Zamzam. On votait aujourd'hui au Somaliland pour la présidentielle. 3 candidats et une mesure en commun, faire avancer le projet de reconnaissance du pays par la communauté internationale. Et puis une nouvelle journée de violence au Mozambique, au moins 6 morts dans le mouvement de contestation des résultats de la présidentielle à Nampula, dans le nord du pays. Les forces de sécurité ont également quadrillé la capitale Maputo. Afrique Soir, on ira également au Bénin. Le groupe de travail sur la détention arbitraire affirme que l'opposant Joël Aïvo est détenu arbitrairement. Son avocat espère que cela fera avancer le cas de son client condamné à 10 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Dans le dossier d'Afrique Soir, nous irons en RDC où vient de s'ouvrir le forum des affaires Makutano, lieu privilégié pour les échanges entre secteurs privés et publics. Et puis dans 20 minutes, notre rendez-vous culture, Pierre Vallée nous fera découvrir le dernier album du jazzman éthiopien Moulata Astatke. Mais avant de développer tous ces titres, direction la salle Pleyel à Paris où se produit ce soir Tikenja Fakoli pour clore cette journée spéciale sur RFI avec le reggae-man ivoirien. On retrouve sur place Laurence Saloir. Laurence, c'est donc une grande soirée de concert qui s'annonce à vivre, bien entendu, sur RFI.
Absolument, on vous attend Alexis. Sans vous, on annule tout. Donc,
vous serez quand même avec nous, Laurence.
Oui, et avec l'audicière qui est à côté, il fait ses écritures parce qu'il a intérêt à assurer toute la soirée. Moi, je vais dormir et le regarder faire. Donc, effectivement, nous sommes à la salle Pleyel, une salle symphonique absolument magnifique qui s'ouvre à toutes les musiques depuis une dizaine d'années. Ce soir, Tikenja Fakoli va présenter son projet, le dernier en date, une version acoustique de quasiment 30 ans de carrière. Ce qui est bien, c'est aussi de parler des premières parties à 19h30. Enfin, c'est-à-dire là, maintenant, il y a un Kéman Burkinabé qui va monter sur scène. Je dis bien qu'il va monter sur scène parce que pour l'instant il n'y a rien. Il va monter sur scène, il s'appelle Jacques Assa. Et il a sorti un album qui est magnifique, qui s'appelle Kakistocratie. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce mot, c'est un mot français et qui veut dire un peu gouvernement dirigé par des cons. Voilà, je trouve que c'est une bonne ambiance pour démarrer
bonne
cette soirée.
Et beau projet pour cette soirée de concert.
Mais Tikenja est un homme qui chante tout haut ce que les gens n'ont pas envie d'entendre. Alors je pense que c'est une bonne idée. À tout à l'heure.
À tout à l'heure, Laurence Saloir avec donc Claudiciard pour ce concert de Tikenja Fakoli à suivre à partir de 20h40, heure de Paris. C'est la dernière grande ville du Darfour, encore sous le contrôle de l'armée soudanaise. Voilà 7 mois qu'Alpha Cher est assiégée par les paramilitaires des FSR. Face à la situation, une grande partie de la population vit désormais dans le camp de déplacés de Zamzam, à la recherche désespérée de nourriture. Écoutez le témoignage de Justine Mouzik-Pikmal, directrice régionale de l'ONG Solidarité Internationale.
Le siège de Alpha Cher continue encore aujourd'hui. Chaque axe est tenu par différents groupes, RSF, SAF, Joint Forces, qui se trouvent sur les axes et qui chacun crée le fameux blocus autour de Alpha Cher. En termes de nourriture au quotidien, ils ont accès à un micro-marché qui a un peu de nourriture à l'intérieur. Cependant, c'est extrêmement cher. Donc les gens qui n'ont plus les moyens du tout sont partis sur Zamzam pour trouver de l'aide humanitaire plus directe. L'accès humanitaire est bloqué. Les rares personnes qui arrivent à travailler sont des équipes locales qui restent sur place malgré les bombardements et des attaques. Il n'y a aucun camion qui est arrivé sur Alpha Cher. On a quelques camions de UNICEF qui sont arrivés jusqu'à Zamzam, avec ce qu'on appelle du supplément nutritionnel pour les malnutris. On est vraiment sur un tout petit niveau de réponse. Le peu de nourriture qui arrive sur Alpha Cher, c'est les commerçants d'autour. Koulbouz, qui est une ville qui est juste en dessous d'Alpha Cher, est un grenier de la zone. On est en plein milieu des récoltes. Donc oui, il y a des commerçants privés qui passent, mais on parle de centaines de tomates et en centaines de légumes, loin d'être suffisant pour une réponse humanitaire. Et de toute façon, les prix sont tellement faramineux que la réponse est improbable. C'est une crise où des pays membres des Nations Unies doivent se réveiller. un blocus sur les axes aujourd'hui pour empêcher l'aide humanitaire d'atteindre des endroits comme Zamdan ou El Fasher devrait plus être une réalité en 2024.
Un propos recueilli par Alexandra Brangeon. Les électeurs du Somaliland étaient appelés aux urnes aujourd'hui pour la présidentielle. Avec des files d'attente devant les bureaux de vote, trois candidats en lice, tous ont promis de faire de la reconnaissance internationale du pays leur priorité en cas de victoire. Le pays n'est en effet pas reconnu depuis sa séparation avec la Somalie il y a 33 ans, Florence Maurice.
En janvier dernier, le président sortant créait la surprise en annonçant que l'Éthiopie s'apprêtait à reconnaître officiellement le Somaliland en échange d'un accès à sa façade maritime. Mais depuis cette annonce, rien, personne n'a eu accès au protocole d'accord censé avoir été signé et l'Éthiopie est sous pression pour reculer. Quelle que soit l'issue du scrutin, une reconnaissance par Addis Abeba semble donc incertaine. C'est désormais vers les États-Unis que les yeux sont tournés. La réélection de Donald Trump à la Maison-Blanche ravive des espoirs. Pendant la campagne, les stratèges conservateurs ont suggéré à leurs candidats de reconnaître le Somaliland pour contrer l'influence de la Chine en mer Rouge. Pékin ayant désormais une base à Djibouti, reste à savoir ce que Donald Trump fera réellement. En attendant, aucun membre des Nations Unies ne reconnaît donc le Somaliland, mais certains ont noué des relations politiques et diplomatiques, comme les Émirats Arabes Unis, c'est une entreprise émiratie qui gère le port de Berbera, ou encore le Danemark et le Royaume-Uni. L'an dernier, les conservateurs britanniques ont même déposé un projet de loi en faveur d'une reconnaissance. Leur argument, faire du Somaliland un pays clé dans la région pour contrer la menace Houthi en mer Rouge. Mais les conservateurs ont perdu le pouvoir à Londres depuis.
Au Mozambique, les résultats de la présidentielle du 9 octobre, toujours source de violences meurtrières. Le candidat malheureux, arrivé deuxième selon les chiffres officiels, Venancio Mondlane, avait appelé à une nouvelle phase de contestation à partir d'aujourd'hui. Il y a eu au moins 6 morts ce mercredi dans la répression des manifestations à Nampula, dans le nord du pays. Chiffre donné par la plateforme électorale Decide. À Maputo, la capitale du Mozambique, la situation est restée calme en raison d'un fort déploiement sécuritaire, Pierre Firsion.
À tous les carrefours des grandes avenues de la capitale, des policiers sont postés. Parfois, un blindé de l'unité d'intervention rapide patrouille. Pour le commandant de la police nationale, le général Bernardino Raphaël, la menace est claire.
Il ne s'agit pas de manifestations pacifiques, mais de manifestations violentes à tendance subversive, dont l'intention est de porter atteinte à l'ordre constitutionnel mozambicain.
Des propos qui font bondir Bakshidi. La semaine passée, ce conducteur de triporteur du quartier de Machakene a essuyé des tirs de la police.
Le commandant, il n'était pas dans la rue pour voir ce qui s'est passé. Nous, on y était. Ce sont les policiers qui vandalisent. Ce sont eux qui tirent des gaz lacrymogènes sur nous. Et en tant que peuple, nous avons le droit de nous défendre.
Isabelle est dépitée. Cette jeune diplômée de 24 ans estime que la répression policière de ces dernières semaines est le signe d'une démocratie malade.
En principe, je n'ai pas peur de la police, mais ces derniers jours, si. C'est normal que la police escorte une manifestation, mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'elle tire des balles réelles. Elle tire sur le peuple qui lutte pour ses droits. Dans une démocratie, ça ne me semble pas nécessaire.
Selon les organisations de la société civile, la répression de la protestation électorale a fait plus d'une quarantaine de morts en 15 jours.
Dans le même temps, l'Afrique du Sud annonce ce soir une nouvelle fermeture de sa frontière terrestre avec le Mozambique en raison des chauffourées au poste Ressano Garcia côté mozambicain. Des manifestants ont bloqué cet après-midi la route, empêchant les routiers de passer. Le commissaire aux frontières sud-africain a assuré que cette fermeture était temporaire. La semaine dernière, déjà, une mesure similaire avait été prise pendant 5 jours. Cette fermeture avait coûté au Mozambique près de 6 millions d'euros, selon les autorités du pays. Il est le nouveau Premier ministre de Maurice, Navin Ramgoolam, a prêté serment dans la journée. Retour au pouvoir après 10 ans dans l'opposition pour celui qui a remporté haut la main les législatives de dimanche. Ma mission, c'est d'assurer que Maurice soit un endroit où il fait bon vivre, a déclaré le nouveau chef du gouvernement, tout en promettant la fin des espionnages et des ingérences politiques.
RFI à Cotonou, 90 FM.
Joël Aivo est détenu arbitrairement au Bénin. C'est en tout cas l'avis du groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. L'opposant béninois constitutionnaliste a été arrêté en 2021 et condamné à 10 ans de prison pour blanchiment de capitaux et atteinte à la sûreté de l'État. Une décision de justice qui avait été contestée Et pour son avocat, Ludovic Henbel, cela constitue un cas d'école de détention arbitraire. Ludovic Henbel qui espère désormais que ce rapport du groupe de travail fasse bouger les lignes.
L'avis du groupe de travail des Nations Unies, c'est un groupe composé de 5 experts indépendants de haut niveau. C'est un avis ici qui est rendu, qui est extrêmement clair et catégorique. La détention du professeur Aevo est arbitraire, constitue une grave violation de ses droits fondamentaux et ses droits de l'homme. Comme c'est une haute autorité qui adopte évidemment une décision en la matière de manière indépendante, cela engage la responsabilité internationale du Bénin. Le groupe de travail conclut de manière extrêmement claire, de manière extrêmement catégorique, au caractère arbitraire de la détention et appelle à la libération immédiate et sans condition de Joël Aevo et recommande également des réparations pour le préjudice qu'il a subi. Donc cela implique que le Bénin a la responsabilité internationale de respecter ses engagements en matière de droits de l'homme en tant que membre des Nations Unies et de procéder en principe à la libération immédiate de Joël Aevo.
L'avocat de Joël Aevo avec Paul Lorgerie. Au Mali, Issa Kaounjim a été placé sous mandat de dépôt cet après-midi, poursuivi pour offense commise publiquement envers un chef d'État étranger et injure par le biais de systèmes d'information. Il sera jugé le 12 février prochain selon des sources judiciaires maliennes et selon son entourage. Issa Kaounjim, mis en cause par le Burkina Faso pour des propos tenus sur la chaîne Joliba TV, sur laquelle il avait moqué la dernière affaire de coup d'État déjouée à Ouagadougou. Des nouvelles à présent de Serge Mathurin, le journaliste nigéro-ivoirien impliqué par le Burkina Faso dans une affaire d'atteinte à la sûreté de l'État. Il vient de passer 2 mois en détention secrète près de Niamey, au Niger, où il travaille. Serge Mathurin est en bonne santé, c'est ce qu'affirme le consul ivoirien à Niamey, Victor Akiesé.
Je l'ai vu, il se porte bien malgré les 2 mois d'incarcération. Il a pu voir sa femme et ses enfants. Notre compatriote est bel et bien à Niamey et que les autorités de ce pays ont décidé de le mettre à la disposition de la justice nigérienne. C'est ce que nous souhaitions. La justice fera son travail puisqu'il a été présenté devant le procureur de la République le lundi 11 novembre. Il a été inculpé comme atteinte à la sûreté de l'État, mis sous mandat de dépôt et transféré à la prison civile de Birni-Ngaouré. Je pense que à la suite d'un procès juste et équitable, notre compatriote sera libéré et va regagner sa famille. Parce qu'on ne sait jamais ce qui lui serait arrivé s'il avait été extradé au Burkina Faso.
Victor Akiesé, le consul ivoirien à Niamey. Au Rwanda, 5 personnes ont été tuées dans un bar du sud-ouest du pays. C'est un soldat qui a ouvert le feu sur des civils. Le motif reste encore inconnu. Le tireur a été arrêté par les forces de sécurité. RFI, 19h42 à Kinshasa. C'est un grand rendez-vous de la vie économique en RDC. La dixième édition du Forum des affaires Makutano s'est ouvert aujourd'hui à Kinshasa. L'ambition, c'est de faire discuter les acteurs de la vie politique, économique et sociétale de RDC. Le réseau Makutano, fondé par des entrepreneurs congolais, se définit aujourd'hui comme le premier réseau d'affaires de la sous-région. On retrouve notre correspondante sur place, Paulina Zidi. Paulina, un des objectifs, c'est de permettre des rencontres entre secteur privé et secteur public.
Oui, ça a commencé avec une première journée très institutionnelle, hein, qui a commencé avec un peu de retard ici au centre financier de Kinshasa. Le président Félix Tshisekedi a pris la parole pour ouvrir officiellement ce rendez-vous. Il a appelé à l'action pour repenser, je cite, « notre pacte économique et social ». Cet après-midi, les différents intervenants ont, eux, rappelé le but de Makutano, vous le disiez, faire discuter et se rencontrer le secteur privé et le secteur public, permettre aux entrepreneurs de rencontrer les acteurs de l'État dans leurs différents secteurs. En nombre de participants, on peut le dire, hein, c'est déjà un peu une réussite. Beaucoup de ministres, des responsables politiques dans la salle aux côtés des chefs d'entreprise. Mais Makutano veut aller plus loin et inscrire un New Deal à l'agenda de l'Afrique, une nouvelle capacité pour le continent de repenser ses méthodes de développement. Et pour l'une des intervenantes, ce soir, il faut passer par la répétition des événements. Tant que le potentiel de notre continent ne sera pas exploité à sa juste valeur, Makutano existera, a-t-elle déclaré. Et ce n'est que le début du forum. Demain commencent les ateliers avec un panel de haut niveau en ce qui concerne les acteurs politiques et politiques, les acteurs économiques et politiques représentés.
Merci Paulina. Paulina Zidi, correspondante de RFI à Kinshasa. Parmi les domaines concernés par ces rencontres, celui de la culture, un secteur que connaît bien le metteur en scène, artiste et directeur de théâtre Israël Chipamba. Il estime en effet que la culture est un des piliers du développement en RDC.
Vous savez que la culture, c'est un levier de croissance économique. Hein. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement sans la culture. C'est impossible. Ce n'est pas du tout un slogan parce que, comme vous le savez, on ne développe pas, on se développe. Et qu'est-ce qu'on développe ? On se développe soi-même, ce qu'on est, son identité, ses savoirs, et voilà, voilà.
Alors justement, c'est quoi les défis de la culture à Kinshasa, en RDC ?
Alors, à Kinshasa, les privés font leur part. Hein. Vous savez que dans cette ville, vous avez des théâtres, vous avez des galeries, vous avez des ateliers, vous avez des incubateurs. Franchement, les privés font leur part. Maintenant, il faut que l'État réglemente le secteur, il faut que l'État crée des conditions favorables pour que notre secteur puisse aller de l'avant. Vous savez, la République démocratique du Congo, c'est plus de 100 millions d'habitants, c'est 26 provinces, c'est un territoire immense, c'est 450 ethnies, le patrimoine culturel dans ce pays est énorme. La RDC est connue comme étant le pays de la rumba. Mais, le budget ne suit pas. Les moyens ne suivent pas. Aujourd'hui, la culture en République démocratique du Congo, la plupart des festivals vivent grâce à la coopération. Et ça, c'est un défi qu'il faut absolument relever. Il faut changer les choses à ce niveau-là.
Un forum comme Makutano, ça permet quoi ?
Alors, le forum comme Makutano permet déjà de réunir tous les acteurs culturels face au gouvernement, parce que la ministre de la Culture sera là, c'est elle qui préside les travaux. Un certain nombre de ses conseillers sont des modérateurs dans certains panels. Nous avons bien pensé les choses parce que nous avons un message à passer. Il faut que ça bouge, il faut des politiques publiques d'accompagnement. Le boulot, nous, on le fait, mais il faut un cadre réglementaire, il faut des conditions, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Donc, franchement, ici, le premier enjeu, c'est faire rencontrer deux mondes qui ne se rencontrent jamais. C'est ça le plus grand défi.
Le directeur de théâtre Israël Chipamba au micro de Pauline Azidi qui signait donc ce dossier d'Afrique Soir. Danny Jordan a été interpellé ce matin par la police de Johannesburg. Le président de la Fédération sud-africaine de football est poursuivi ainsi que deux autres personnes pour des allégations de fraude. Il a pu quitter librement le tribunal contre une caution de 1000 euros. Correspondance de Valentin Hugues.
En attendant son procès prévu le mois prochain, Danny Jordan est libre. Il avait été arrêté chez lui ce matin, accusé d'avoir dépensé plus de 70 000 euros à des fins personnelles, notamment pour engager une société de sécurité privée. En mars dernier, les enquêteurs perquisitionnent ses bureaux. Des ordinateurs, disques durs et documents sont saisis. Résultat, l'homme de 73 ans se serait servi dans les caisses de la Fédération entre 2014 et 2018 pour sa sécurité, donc, mais aussi pour redorer son image. Avec cet argent, il aurait fait appel à une entreprise de communication parce que ce n'est pas la première fois que le président de la fédération fait la une de la presse sud-africaine. Celui qui a été aux manettes de l'organisation de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud est aussi accusé de viol par l'ancienne députée Jennifer Ferguson. Le parquet avait décidé de ne pas le poursuivre. Depuis, de nombreuses associations ou partis politiques appellent à sa démission. Aujourd'hui, c'est pour fraude et vol que Danny Jordan était à la barre. À ses côtés, le directeur de la société de communication et le directeur financier de la Fédération sud-africaine de football. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
RFI, 19h48, ici à Paris.
Afrique Soir, sur RFI.
Alexis Guilleux.
Les grands titres de l'actualité internationale de ce mercredi 13 novembre, Donald Trump à la Maison-Blanche avant son grand retour en janvier. Le président élu a été reçu par Joe Biden qui lui a adressé ses félicitations. Nous ferons tout ce qui est possible pour être sûr que vous ayez tout ce dont vous avez besoin, a déclaré l'actuel chef de l'État américain. Donald Trump qui a nommé Elon Musk conseiller spécial chargé de l'efficacité gouvernementale, le patron de Tesla et SpaceX dont les entreprises ont noué des contrats juteux avec l'État américain, sera donc chargé de lutter contre la bureaucratie. En Allemagne, Olaf Scholz était devant les députés du Bundestag. Le chancelier a défendu son bilan à un peu plus de 3 mois des élections L'Allemagne ne laissera pas l'Ukraine seule face à l'agresseur russe, a promis Olaf Scholz. Et puis en France, c'est le 9e anniversaire des attentats du 13 novembre 2015. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a assisté à une cérémonie devant le Bataclan où 92 des 130 victimes de ces attentats avaient été tuées par des djihadistes du groupe État islamique. Troisième et dernier épisode ce soir de notre série sur le journalisme d'investigation en Afrique. Fin octobre, l'université de Wits en Afrique du Sud a tenu une conférence annuelle à ce sujet. En Afrique, la liberté de la presse reste fragile. La situation est problématique ou pire dans près de la moitié des pays du continent, selon le classement de Reporters sans frontières. Intimidation ou encore détention arbitraire. Les journalistes doivent aussi prendre leurs précautions en ligne. Reportage de Claire Bargelès.
Les journalistes ne sont pas immunisés contre les attaques numériques et leurs conséquences qui peuvent se traduire de façon bien réelle, comme l'explique John Alan Namu. Il est cofondateur du média d'enquête Africa Uncensored.
Quand on fait du journalisme d'investigation, on s'expose naturellement aux critiques, mais il y a des fois où cela va bien au-delà de ça, avec des cas de campagne de désinformation très spécifiques et ciblées qui nous visent, nous ou notre organisation. On en a fait l'expérience lors des manifestations de juin au Kenya. On peut aussi voir ces informations privées être divulguées en ligne, sur le web, le doxing. Par exemple, votre adresse, ou bien les gens révèlent où vos enfants vont à l'école. Ça ne m'est pas arrivé personnellement, mais j'ai vu d'autres personnes en être victimes.
La sécurité physique des journalistes peut donc être en jeu, tout comme leur bien-être mental en cas de cyberharcèlement. Et les femmes sont particulièrement touchées. Dans une récente enquête mondiale de l'UNESCO et du Centre international des journalistes, 73% d'entre elles déclarer avoir subi des violences en ligne dans le cadre de leur travail. Madeleine Gunga est journaliste camerounaise spécialisée dans les enquêtes environnementales et rédactrice en chef pour l'Afrique au Centre Pulitzer.
Imaginez-vous, j'ouvre le téléphone et je vois sur Facebook, j'ai publié un article et des gens qui sont en train de m'insulter. On n'est pas sans cœur. On va y penser toute la journée. Et si ça se répète, si chaque avis qu'on donne sur les réseaux sociaux, des gens nous insultent, les gens nous traquent, je pense qu'à un moment donné, on aura comme la phobie des réseaux sociaux. Notre humeur va forcément changer. Donc, je peux pas dire que ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est une autre vie et ce qui se passe chez moi, c'est une autre vie. C'est pour ça que moi, je fais des efforts et je conseille aux collègues toujours de faire des efforts, de trouver des méthodes pour se protéger quand on est en ligne.
De plus, les mêmes outils de recherche en source ouverte qu'utilisent les journalistes pour enquêter sont de nature à se retourner contre eux, tout comme leurs téléphones ou leurs ordinateurs qui peuvent être espionnés, ce qui conduit parfois à aussi mettre en danger ceux qu'ils ont interrogés. Il faut donc agir avec prudence, selon Jones Barazza, expert en cybersécurité pour le réseau Code for Africa.
Avec l'émergence de nouvelles technologies, on voit aussi apparaître de nouveaux dangers pour les journalistes. Il faut que les individus et les rédactions mettent en place des règles pour s'assurer d'avoir un minimum de sécurité.
Dans une déclaration adoptée à la fin de la conférence sud-africaine, les participants ont réclamé plus d'efforts de la part des gouvernements et des rédactions du continent afin de mieux protéger les journalistes et sauvegarder la liberté d'expression. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
Série de reportages de Claire Bargelès, trois épisodes à retrouver sur RFI.fr. Vos rendez-vous à suivre ce soir sur RFI. Après le journal de 20h heure de Paris, ce sera Accent d'Europe qui vous emmènera dans le nord de la France. Près de 32 000 migrants ont traversé la Manche cette année avec un record en octobre, 5 200 départs. Autre triste record, celui du nombre de morts, plus de 60 décès cette année. Malgré les dangers, l'espoir d'une vie meilleure en Angleterre est toujours grand chez ces migrants. Marie Casadebé est allée à leur rencontre à Vimereux, à une trentaine de kilomètres de Calais.
Ils nous attendaient dans la forêt. On n'a pas pu bien les voir parce qu'ils portaient des masques. Et tout le monde a dû éteindre son téléphone pour qu'on ne puisse pas les prendre en photo. Ensuite, ils sont restés à quelques mètres de la mer et nous ont dit « c'est dans cette direction ».
Le bateau est parfois très loin du bord.
Oui, une fois j'ai dû rentrer dans la mer. L'eau dépassait mes épaules.
Accent d'Europe, ce sera à 20h10, heure de Paris. Et puis on l'évoquait tout à l'heure avec Laurent Salloir. Dès 20h40, on prendra la direction de la salle Pleyel à Paris pour le concert de Tikenja Fakoli, soirée spéciale sur RFI, avec donc Claude Issiard et Laurent Salloir. Tikenja Fakoli que l'on écoute tout de suite avec son titre « Massa ».
Nyame sangre ni dugulula, kaye alale masaye. Nyame sangre ni dugulula,
Tikenja Fakoli avec son titre Massa. Ne manquez pas donc ce soir cette soirée spéciale sur RFI avec le reggaeman ivoirien. 19h54 ici à Paris. Et retour en Afrique de l'Est avec le nouvel album de Mulata Astatke, le vibraphoniste et pionnier de l'Ethio Jazz d'Éthiopie. Donc, il associe son vibraphone à la puissance des cuivres de l'orchestre. À 80 ans, il n'a rien perdu de son inspiration, Pierre Vallée.
Mulatu Astatke est né en 1943 en Éthiopie. Il a étudié la musique en Angleterre et aux États-Unis, où il a même été le premier élève africain de la Juilliard School, la plus prestigieuse école de musique new-yorkaise. De retour en Éthiopie, il a la bonne idée de mélanger les rythmes et mélodies traditionnelles avec ce qu'il a appris, le jazz, la soul et la musique latine. C'est la naissance de l'Ethio Jazz, un style qui s'épanouira à Addis Abeba dans les années 60-70. L'arrivée du dictateur Mengistu mettra brutalement fin à cette fête et il faudra attendre la fin des années 90 et le lancement de la série Éthiopique par le producteur Francis Falsetto pour que l'Ethio Jazz renaisse, s'ouvre au monde entier et se découvre un nouveau public. Grâce à ce renouveau, la carrière de Mulatu Astatke est relancée. Il se produit dans le monde entier et multiplie les collaborations avec les Australiens de Black Jesus Experience ou les Anglais The Heliocentrics. Cette fois, c'est avec un ensemble de Tel Aviv qu'il s'associe, Oudna Orchestra. Un groupe passé maître dans la fusion d'afrobeat, de jazz, de rock et de musique arabe, ce qui souligne parfaitement ce petit parfum oriental propre à la musique éthiopienne qui la distingue des autres musiques du continent. Avec cet album appelé Tension, Mulatu Astatke et Oudna Orchestra nous offrent un disque subtil sur lequel ils ont su allier la délicatesse du vibraphone avec la puissance des cuivres, à l'image de l'Ethio Jazz à la fois simple et complexe, entraînante et hypnotique.
De Mulatu Astatke, l'Éthiopien qui signe donc son retour avec ce nouvel album que vient de nous présenter Pierre Vallée. Afrique Soir, première édition, c'est donc terminé pour aujourd'hui. Vous restez bien avec nous sur RFI. Dans une grosse minute maintenant, c'est le retour de l'info sur la radio du monde avec Véronique Rigolet. Très bonne soirée.
Santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain,
Journée mondiale du diabète, mieux lutter contre cette épidémie mondiale.
Vendredi,
émission Questions de femmes, fausses couches et postpartum.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur le thème de demain.
La baisse de la natalité devient un phénomène mondial et va bouleverser à terme les sociétés et nos modes de vie. Alors faut-il vraiment s'inquiéter d'un futur sans enfants ou au contraire en saisir les opportunités ?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 337 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.
Demain sur RFI, de vive voix. Pascal Paradou.
Étoile montante du rap français, Isa Yazuke sort son premier album, BO d'une vie, ou comment une jeune fille placée dans un foyer trouve sa voix dans la musique. Et elle écrit, compose avec la vaillance d'un samouraï, puisqu'elle en porte le nom, un album d'amour, de foi et de résilience.
Écoutez De Vive Voix avec Pascal Paradou, du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.